toute l'équipe de Comaguerre réunie autour du micro et dans la cabine technique de Radio Galère est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition de nos carnets hebdomadaires. Alors, je voulais nous situer, parce que j'ai découvert une expression qui m'a enchanté, entre guillemets, qui fait état de vérité journalistiquement établie. Alors, tenez-vous bien, il y a des journalistes qui ont peut-être été l'objet de critiques ici et là sur la façon dont ils présentaient tel ou tel événement. Alors, on peut imaginer, enfin, chacun d'entre vous pourra y mettre des noms sous cette appellation. Et donc, il y a un groupe de ces gens-là qui ont décidé de se proclamer proclamateurs de la vérité journalistiquement établie. Alors là, on a quand même un tournant, c'est-à-dire que les journalistes qui sont là pour commenter, donner de la matière, donner du recul à un fait qui s'est passé, peuvent se permettre de trier en disant « mais ça, c'est pas la vérité, parce que la vérité sort de notre bouche ». Alors il faut déjà oser le dire, et il faut être un journaliste, je pense, payé chèrement sur telle antenne de ne sais pas lesquelles, peu importe de les citer, chacun d'entre vous reconnaîtra les siens, enfin ceux qu'il connaît, mais oser dire ça, et dire « nous sommes ceux qui établissons la vérité », c'est quand même un peu faire atteinte à un travail de tous ceux qui font des faits, qui sont dans des décisions, qui sont des historiens, qui sont des hommes politiques, qui sont des parlementaires. Ce serait aujourd'hui les journalistes qui diraient « ça c'est vrai, ça c'est pas vrai ». Alors, si vous voyez un journaliste qui dit ça, bon, vous pouvez couper la chaîne hein, et aller voir ailleurs, c'est tout à fait clair. Mais ils sont très très contents d'eux, au point d'avoir osé mettre en circulation ce concept vérité journalistiquement établi.
Alors, ça doit marcher. Il n'a pas dû passer par l'école de journalisme.
Peut-être, mais après, il est mort de faim. J'ai connu des cas comme ça de jeunes diplômés de l'école de journalisme qui avaient une des réflexions personnelles, qui avaient un passé militant dans leur famille, etc., qui disaient « mais si je me mets à dire ce que je pense, je ne trouverai jamais aucun travail ». Et donc, ils disent « ah ben, je compose, je vais de ci, de là, je passe entre les gouttes, etc. » Donc, une vie de compromis, en faisant à cloche-pied de l'actualité, jusqu'à un âge avancé, avec un problème de dire « ah oui, mais si je me marie, j'ai des enfants, je pourrais peut-être pas les nourrir si je dis pas ce qu'il faut. » C'est très, très inquiétant. Mais j'en ai connu, j'en ai entendu de mes oreilles dire ça, c'est extrêmement douloureux. C'est pour ça que je relève ce concept insupportable en démocratie. Ce n'est pas les journalistes qui disent le vrai. Les journalistes commentent, vous donnent des matériaux, donnent un angle de vue différent, vont interviewer une autre personne qui n'a pas tout à fait le même avis et tout. Mais ce n'est pas le journaliste qui dit ce qui est vrai. Alors celui qui... Enfin, le journaliste qui croit ça, j'allais dire, il a un peu la tête qui a enflé. Il regardait... Regardez, moi, je dis la vérité. Bravo, monsieur, mais quel homme vous êtes hein, de pouvoir faire ça. Bon, alors, je faisais cette introduction pour vous dire que restez sur Radio Galère, parce qu'il n'y a pas à Radio Galère de vérité journalistiquement établie. D'abord, ni Roselyne, ni Abim, ni moi ne sommes des journalistes. On n'établit pas la vérité. On vous donne des éléments. Vous réfléchissez. Vous pouvez aller voir ailleurs. Vous pouvez recouper ce que nous avons dit. C'est ça notre travail. C'est ça le travail d'une radio dite libre qui contribue à l'éducation populaire, c'est-à-dire donner à chacun des moyens de se situer dans un cadre qu'on espère maintenir le plus longtemps possible dans un cadre démocratique. Mais les risques sont là. C'est pas gagné d'avance. Ça veut dire, ça exige d'entre nous, d'entre vous qui écoutez, une mobilisation régulière. N'avalez pas n'importe quoi. Ne croyez pas ces journalistes qui établissent tout seuls la vérité et qui se trouvent la répéter d'ailleurs sur 25 plateaux à la fois le même jour ou le lendemain, parce que ça aussi c'est un signe que cette vérité-là, elle est tellement journalistiquement établie qu'une fois qu'on est dans ce groupe de gens, de journalistes qui disent le vrai, je mets ça entre guillemets, ils sont tellement contents d'être entre eux qu'ils le répètent sans même prendre le temps d'aller voir s'ils ne pourraient pas un peu tempérer ce qu'ils ont dit, revoir un petit peu leurs sources, etc. Bon, on a une espèce de phénomène donc, d'enfermement collectif de cette profession, enfin, du gratin bien payé de cette protection, je précise, parce que dans les journalistes qui font attention, qui sont méfiants, qui ont de la peine à trouver leur place dans le milieu, il y a aussi des gens mal payés. Alors, c'est pas ceux que vous verrez sur les plateaux tous les jours, mais il y en a. Et ceux-là essayent, comme ils peuvent, de faire un travail indépendant, libre, et ils ne sont pas en train d'établir la vérité, urbi et orbi, pour tout le monde. ça valait la peine d'être dit, parce qu'on circule beaucoup, enfin on a les oreilles noyées dans ces flots-là, journalistiquement établis, comme on dit. Et donc, ce que nous vous proposons chez Radio Galère et à Comaguerre, c'est une antidote. Guérissez-vous de ce mal, soignez vos oreilles, parce qu'il y a de quoi faire, vous allez voir, par tous les sujets qu'on aborde dans toutes nos émissions. Je vais commencer par un sujet lointain, qui va vous étonner, c'est un peu exotique. Il y a au large de l'île de Taïwan, alors je ne reviens pas sur le cas de Taïwan, dans un périmètre qui a été délimité après 1945, puisque Taïwan est, pour les États-Unis et pour la communauté internationale, comme on dit à l'époque, Taïwan, c'est la Chine, au point que Taïwan, vous le savez, parlera, Taïwan, 20 millions d'habitants, parlera pendant plusieurs décennies au nom de 1 milliard, enfin, ils n'étaient pas 1 milliard, de 500 millions de Chinois qui ne comptaient pour rien sur la planète, hein, puisque donc à l'ONU, Taïwan va représenter tous les Chinois jusqu'à un certain temps, et en particulier, ça viendra au moment où en particulier De Gaulle ira dire « maintenant ça suffit » dans son fameux discours de Phnom Penh. Mais toute cette période-là, Taïwan a eu un territoire délimité qui n'était pas la République populaire, puisque ceux qui soutenaient Taïwan savaient bien que ce n'était pas la même chose, ils avaient bien compris. Un territoire délimité de telle façon qu'il y a encore aujourd'hui, à 10 000 nautiques, alors 10 000 nautiques, je parle le langage des marins, c'est entre Marseille et le Planier, en gros, c'est à peu près ça. Bon. Alors imaginez qu'il y ait au Planier une île de la taille un peu plus grande que le Frioul, et sur laquelle il y aurait des habitants, et il y aurait en particulier des commandos de l'armée américaine. Voilà. Donc on est à 12 kilomètres, en gros, du territoire de la Chine populaire. On est au large d'une grande ville qui s'appelle Xiamen, X-I-A-M-E-N. Et depuis l'île, on voit les tours de la ville, on voit le port de la ville, etc. En fait, il se trouve que, et on insiste beaucoup là-dessus à Taïwan en ce moment, aujourd'hui, sur l'île de qui s'appelle Kinmen ou Kemoy, c'est une autre version, il y a des bérets verts des États-Unis en permanence. Donc, effectivement, les États-Unis sont là, à 10 km de la côte chinoise. Bien entendu, c'est la Chine qui provoque, vous avez bien compris. C'est ça la vérité journalistiquement établie. Bon, alors, pour l'instant, ça s'arrête là. C'est-à-dire que le gouvernement de Taipei dit « Ah, mais vous voyez, il y a des bérets, il y a des bénévoles verts, il y a des commandos, etc. etc. » Pensez-en ce que vous en voulez. Ce qui veut dire, avant que la Chine populaire et Xi Jinping mettent le pied sur cet endroit-là, ça sera très, très difficile. Il y aura beaucoup de sang qui coulera. On n'en est pas là, mais je voulais vous signaler ces petites choses comme ça. On voit que fabriquer de l'attention internationale, c'est un espèce de métier. Et il y a, en particulier aux États-Unis, au Pentagone, au département d'État, des spécialistes de la fabrication de l'attention internationale. Parce qu'effectivement, l'armée chinoise ne va pas tout d'un coup sauter sur ce petit îlot pour dire on fait la peau au béret vert ou on fait des prisonniers, évidemment. Mais créer de l'attention, faire parler les journalistes qui s'attendent alors qu'on leur donne de la matière. Ça fait partie des objectifs des créateurs de tension. Alors d'autres gens donneraient une expression beaucoup plus vulgaire que je n'utilise pas, mais créer de la tension, ça veut dire mettre du désordre, etc. Et on peut en faire un métier, bien rémunéré d'ailleurs. Je fabrique des événements à partir de pas grand-chose, parce qu'on m'a dit de fabriquer des événements. Vérité journalistiquement établie. On est toujours dans ce cadre-là. Alors, une autre vérité journalistiquement établie, c'est que les bandits, les voyous se sont emparés d'Haïti. Ça, on en avait déjà évoqué le sujet. Les voyous se sont échappés des prisons parce que dans les dernières semaines, effectivement, les voyous organisés sont allés ouvrir les prisons. Ils n'ont pas eu d'opposition puisqu'il n'y a pratiquement plus de police officielle à Haïti. Et donc, maintenant, tous les voyous sont dehors. Ce qui a permis au Premier ministre en place, qui n'est pas un Premier ministre en ce sens que M. Ariel Henry, vous le savez, a pris la place du président Jovenel Moïse qui avait lui été élu et qui a été assassiné. Et comme il n'y avait personne pour prendre la place, ce monsieur a dit pour faire passer les affaires courantes, je suis là. Il a fait un geste de bonne volonté. Merci M. Ariel Henry. Il est devenu Premier ministre comme ça pour dire qu'il y avait quelqu'un à la tête d'Haïti. En fait, bien entendu, pendant son court mandat, les bandes et les voyous ont fait la loi, puisque en fait, il n'avait personne de son côté, si ce n'est que la communauté internationale, et en particulier les ambassadeurs des principales puissances qui sont présentes à Haïti et qui font la politique d'Haïti, je veux dire les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, disaient que c'était lui l'interlocuteur. On l'avait choisi, il était là, ça faisait joli, on dit « Ah ben, il y a un Haïtien à qui on parle, responsable. » Bon. En fait, il se trouve qu'à la suite de la sortie de prison de tous les voyous d'Haïti, trafiquants de drogue, escadrons de la mort, enfin, il y a des tas de variétés, on s'enrichit comme on peut, M. Ariel Henry a fui, parce qu'il pensait qu'il allait passer un mauvais quart d'heure, et il n'avait aucun mandat officiel à mettre en avant, puisqu'il n'en avait pas. Et donc, de son exil, il a dit « Ah ben, je démissionne ». Alors, aujourd'hui, la situation en Haïti, c'est qu'il n'y a plus personne. Il y a des Haïtiens, mais il n'y a pas de gouvernement haïtien. Et c'est là qu'arrivent les Kényans. Puisqu'en fait, les Kényans et tous les collaborateurs qu'ils vont trouver apparemment dans un certain nombre de pays des Caraïbes, je pense à la Jamaïque probablement et tout, vont être là comme une espèce de gouvernement d'Haïtiens sans Haïtiens. Voilà la manipulation qui est en cours. Alors ça n'a pas très bien se passer, puisqu'apparemment même du côté de l'armée kényane, on trouve que c'est s'embarquer dans une aventure délicate. Il y a eu des précédents très très fâcheux, puisque là ce n'est pas une mission de l'ONU, c'est une espèce d'accord entre le CARICOM, donc, qui est ce groupement des régionales des puissances des Caraïbes, et les États-Unis qui ont dit « si vous mettez une force de police là, je vous donne de l'argent pour la faire fonctionner ». Donc c'est un peu branlant du point de vue international, ce n'est pas une action de l'ONU, mais ces forces étrangères de police ou militaires selon les cas qui viennent faire l'ordre, faire régner l'ordre à Haïti, sont assez mal vues en général. Et donc,
excuse-moi Bernard, vas-y. Moi j'ai lu que finalement le Kenya n'était pas parti du fait de manque de moyens financiers.
Voilà, alors peut-être les 100 millions ne suffisent pas.
C'est ce que j'ai lu.
Oui, non, mais voilà, en fait on sait qu'ils n'y sont pas. Alors il y avait eu l'accord effectivement du président kényan, puisque Ariel Henry était allé à Nairobi pour signer l'accord au début janvier, je crois. Et puis, effectivement, ça n'a pas l'air de se mettre en place. On savait qu'il y avait des réticences, même dans l'armée kényane. Donc, on va se mêler, etc., ce qu'on est fait pour ça. Hein. Si, en plus, il n'y a pas d'argent, ou si les États-Unis n'ont pas fait un chèque assez gros, puisqu'il y avait 100 millions de dollars d'annoncés, est-ce qu'ils ont dit que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'ils voulaient plus de matériel? Je ne sais pas. Mm. Mais, enfin, on a une opération mal ficelée, douteuse du point de vue du droit et de la démocratie, qui fait qu'il faut appuyer, et ils existent aujourd'hui, les courants qui en Haïti disent maintenant il faut qu'on soit maître de notre destin, nous. Et donc nous organiser différemment. Ça existe dans l'opinion haïtienne, ça existe. Maintenant, ils ont encore tous les voyous qui sont dans les rues. Donc c'est là que ça va se jouer. Mais si on veut que la situation évolue dans un sens positif pour le respect du peuple et son droit à l'autodétermination, il faudra bien qu'il y ait des Haïtiens qui désarment les voyous. C'est bien ça qui se joue. Parce que ce n'est pas la peine d'attendre les Kényans, les Jamaïcains pour désarmer les voyous. Ce n'est pas leur problème. Et puis eux, ça ne leur fait rien. Ils repartent au bout d'un an quand ils ont fini leur mission. Ils gagnent bien leur vie quand ils font ça. L'implication ne peut venir que de la citoyenneté haïtienne. Il y a des cas, on a eu le père Bertrand Aristide qui a été élu, qui a essayé de faire quelque chose. Bon, on l'a débarqué dans des conditions honteuses. Mais il y a encore des énergies public, politique, dans la population haïtienne. Et puis, il y a là un très glorieux passé que beaucoup d'Haïtiens n'oublient pas. Hein. Donc, battre l'armée française, être la première république noire non esclavagiste de l'histoire, c'est quand même un poids, mais ça mérite d'être porté le plus haut possible. C'est ce que je voulais dire. Et puis, pour parler d'autres petits sujets avant d'aborder le plus important, je voulais vous dire un mot sur deux pays qui vont rejoindre l'OTAN ces derniers temps, qui ont déjà ou qui vont, donc la Suède et la Finlande, pour les resituer dans l'histoire, au moins dans l'histoire du XXe siècle. La Finlande, il faut se souvenir qu'au moment où la Deuxième Guerre mondiale est en préparation, la Finlande, je vais faire simple, est clairement du côté des nazis. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est le gouvernement finlandais et tout. Et on sait qu'une partie de l'assaut contre Leningrad, qui durera donc 1000 jours avec 1 million de morts, etc., part principalement de Finlande. On est à à peu près à 60 km de Leningrad quand on est à la frontière entre la Finlande et l'URSS de l'époque. Bon. Donc on est à portée, quasiment à portée de canon. Et donc, la position finlandaise et du gouvernement finlandais est limpide, il est pro-nazi d'un bout à l'autre. L'URSS va tenter une manœuvre en disant, écoutez, on aimerait bien reculer un peu la frontière vers l'ouest, là, parce que vraiment, c'est trop, trop près de Leningrad. Et en échange, on vous donne un énorme bout de terrain plus au nord, donc c'est presque un cadeau. Et les autres, sur instruction des nazis, disent, il n'en est pas question, la frontière, elle est là, on ne bougera pas, etc. Après quoi, donc l'URSS bon, dit, ben voilà, ça va venir par là, l'attaque va venir par là, et se prépare à mener ce combat extrêmement difficile et extrêmement cher en hommes, en vie humaine, que sera la bataille de Leningrad. Là, c'est classé, il y a guère l'ombre d'un doute. La Suède, c'est un peu moins limpide, c'est-à-dire que le gouvernement suédois va prendre une position neutraliste. C'est-à-dire, ah, je ne me mêle pas de ça. Mais en fait, chaque fois que les nazis, l'armée d'Hitler a besoin de passer chez moi pour mener la Deuxième Guerre mondiale contre l'URSS, je la laisse passer. Chaque fois que, et il y a eu le cas quand l'Allemagne a attaqué la Norvège, je laisse l'armée nazie passer pour attaquer les Norvégiens qui sont mes voisins et mes amis, bon, etc., etc. Donc voilà, ces deux pays, alors on a pu considérer en disant que ces deux pays qui n'auraient jamais dû rentrer dans l'OTAN, en fait ils avaient de bonnes raisons d'y être, et ça continue, et le passé historique plaide dans le sens qu'ils ont de toute façon jamais été dans un autre camp que celui-là. Avec à la finlandaise, je suis pro-nazi carrément, à la suédoise, je suis neutre, mais je laisse les nazis faire leurs petites affaires sur mon territoire. Le résultat est à peu près le même. Qui reste à l'OTAN, tant que l'OTAN survit, ils sont chez eux quasiment. Je vois pas ce qui... Oui, oui.
La Turquie qui s'est opposée où à l'année ?
Ah, ça, elle a lâché. Elle a fini par lâcher. Il y avait la Turquie et il y avait la Hongrie. Il y avait oui. Non, Habib me demandait si la Turquie, qui au début avait fait mine de dire ah, on ne va pas les laisser rentrer et tout, mais ça fait partie de la façon de gouverner d'Erdogan et de faire de la diplomatie. Il fait toujours croire qu'il va tomber dans un camp neutraliste ou autre, et il ne tombe jamais dans ce camp-là. Il revient toujours à la maison, j'allais dire. Il rentre au bercail, et le bercail, c'est l'OTAN, et puis voilà. Donc, il a changé de position. La Hongrie, qui avait pris au départ la même position, a changé d'avis récemment, alors sur la Suède.
Il y avait le bureau de PKK en Suède.
En plus. Alors il y avait, mais ils ont dû trouver. Il y a dû avoir un. Voilà. Habib fait état donc du PKK, donc du parti, l'un des partis des Kurdes qui était installé en Suède. Ah. Et donc Erdogan avait dit oui, mais il faudrait quand même que vous les mettiez à la porte, etc. C'est ce sont mes ennemis et tout. Et puis il y a dû avoir un arrangement de coulisses. Hein, finalement, la discipline OTAN à laquelle Erdogan tient particulièrement, elle a été maintenue. Voilà, dernier point que je vais aborder, c'est celui de l'intervention d'une universitaire française, meilleure spécialiste, une des meilleures spécialistes françaises du droit international, qui s'appelle Monique Chemillet-Gendron. Alors, tapez ce nom sur un moteur de recherche quelconque, Monique Chemillet-Gendron, elle a été au nombre des grands témoins qui ont été appelés par la Cour internationale de justice au moment où cette Cour internationale de justice était en train de préparer, puisqu'elle doit être en train de le finir maintenant, il n'est pas publié encore, de préparer donc son avis sur la colonisation de la Palestine. Alors, je vous invite à l'écouter, ça dure 25 minutes, vous allez trouver avec son nom très facilement. C'est remarquable de clarté, de précision, c'est en français, donc pas de problème de traduction, et elle dit d'un bout à l'autre que le colonisateur n'a aucun droit sur cette terre. Pas plus en Cisjordanie qu'à Gaza, ni sur l'espace maritime. Aucun. Il n'y a aucun droit pour le colonisateur. Point. Et donc, elle dit, mais là où ils sont et où ils ne devraient pas être, ils doivent partir. Alors, c'est un propos d'une vigueur diplomatique extraordinaire. Elle dit, mais s'ils ne sont pas chez eux, ils s'en vont, point. Hein. Alors, on va nous faire pleurer dans les chaumières. Ah, les pauvres, mais attendez, ils ont colonisé. Ils ont mis des centaines de milliers de personnes à la porte de leur terre. Eh bien, ça leur retombe sur la figure. Ben, c'est le mouvement de l'histoire, appelons ça. Hein. Mais elle dit, au point de vue du droit, la situation est limpide. Les colonisateurs n'ont aucun droit sur cette terre. Donc, s'ils ne sont pas contents, mais ils s'en vont. Alors, je n'exclus pas, d'ailleurs, je rêve devant vous, mais qu'il y ait des citoyens israéliens d'aujourd'hui qui, dans une Palestine nouvelle, s'installeraient là et mèneraient leur vie tranquillement sans être des sionistes. Ça peut exister, mais la majorité des Israéliens aujourd'hui ne sont pas sur cette position-là. Mais c'est bien de rappeler, surtout je vous invite vraiment, c'est 25 minutes, c'est très facile à écouter, c'est limpide et il n'y a plus aucun débat, c'est pas la peine d'essayer de compliquer les choses avec des nuances et tout. Non, le colonisateur n'a aucun droit, point, c'est tout. Ça, au nom de tous les principes généraux de l'ONU, de l'autodétermination des peuples, etc. Enfin, il n'y a pas le quart d'une nuance. Et elle le fait, bien entendu, sans brutalité, mais elle prend les points les uns après les autres, les textes les uns après les autres, puis voilà, la conclusion est toujours la même, ils ne sont pas chez eux. Voilà, ça c'était une mise en train pour... À tes souhaits. C'était une mise en train pour aborder le sujet qui va quand même être le gros sujet de cette journée, qui est l'élection présidentielle en Russie, qui s'est déroulée donc ces derniers jours, je vais préciser. Alors, ces derniers jours, ben, ça veut dire, et c'est quand même à noter, parce qu'on ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est une élection qui s'est étalée sur 3 jours entiers. Donc, vendredi, samedi et dimanche.
Dimanche, hein, oui, 3 jours.
Ce qui ne se passe pas très souvent, hein, je note, c'est notable. C'est une élection où il y avait donc des bureaux de vote sur la totalité du territoire, c'est-à-dire rien que sur 11 fuseaux horaires, petit détail d'organisation au départ, et puis où il y avait la possibilité de vote en ligne, depuis votre ordinateur portable, dans des conditions extrêmement sûres. Vous pouviez, où que vous étiez avec votre numéro d'électeur et un mot de passe, ça a marché. Alors, le système a été attaqué pendant des semaines et des semaines par tous les hackers possibles et imaginables. Il a tenu le coup. Et donc, vous pouviez, avec votre numéro d'électeur, un mot de passe, voter, où que vous soyez, avec votre portable, sur vos genoux.
Il y a eu beaucoup d'attaques, hein.
Voilà, il y a eu énormément d'attaques, mais le système a tenu.
A tenu, ouais.
Alors, vous allez dire, oui, mais ça, on nous raconte l'histoire. Non, je rappelle par exemple, enfin, on est en France, tout le monde est soumis à l'impôt. Alors, vous en payez, vous n'en payez pas. Mais de toute façon, aujourd'hui, vous savez que la déclaration de revenus se fait par Internet, très majoritairement, qu'il n'y a pas de contestation, que le système, je tire mon chapeau, est remarquablement efficace et pratique. Hein, et donc, c'est tout à fait possible d'avoir un système fiable qui permet d'émettre un vote entre 4 candidats. Ce n'était pas si compliqué que ça, hein, depuis la totalité du territoire. Ça, c'était à noter. Donc, 3 jours, donc des bureaux de vote ouverts longtemps et des techniques pour voter qui ont fait que beaucoup de gens ont voté. Alors là, on en est au premier résultat, c'est-à-dire la participation. C'est la participation la plus élevée dans l'histoire des élections présidentielles depuis que la Fédération de Russie est devenue une république. On est donc arrivé à presque 78% de taux de participation. Alors, on a déjà entendu de bons esprits journalistiquement établis, j'allais dire, ah oui, mais c'est un score à la Staline, oui, forcément, c'est trafiqué, etc. Évidemment, alors, c'est facile de dire ça, mais quand on a des présidents, cherchez du regard, est-ce que vous voyez un président en France, par exemple, élu avec 78% des voix ? On n'en a pas beaucoup vu. Hein. Est-ce que vous voyez un président des États-Unis élu avec 78% des voix ? Ça ne court pas les rues non plus. Ça fait des jaloux, en fait. Ça fait des jaloux parce qu'il se trouve qu'on a affaire à un pays qui a confiance dans son dirigeant et qui le renouvelle au poste qu'il occupe. Pour des raisons historiques qu'on connaît et sur lesquelles je vais un peu plus m'arrêter. Bon,
tout simplement parce qu'il y a des résultats.
Oui.
Pour le peuple russe,
oui, ben voilà.
C'est tout. Ils votent pour. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'ils demandent, hein, les Russes.
C'est exactement. Exactement ça.
Donc. Ils ont même affiché des photos Poutine, Bachar, les grands dictateurs de ce monde.
Les grands dictateurs de ce monde, voilà, c'est ça, oui.
Ils ont même affiché ça en disant...
Ah, j'ai pas vu, oui.
Ouais.
Voilà, oui. Ah oui, on le met. Et donc on en est au point, alors je sais pas ce qu'ils en feront, ça servira à rien, de dire que les Occidentaux ne vont pas reconnaître les élections des résultats présidentiels. Bon, alors, espèce de plaisir gratuit. le premier d'entre vous, j'allais dire, messieurs, le premier d'entre vous qui aura 78%, même plus, des scores de ce type-là des élections, pourra considérer qu'il a fait effectivement un grand progrès. Mais on n'en est pas du tout là. On a affaire à des présidents faiblement élus, contestés, avec des taux de participation souvent inférieurs à 50%. Donc, il n'y a pas raison de faire beaucoup cocorico.
Et excuse-moi, est-ce qu'il y a eu des observateurs extérieurs à ces élections?
Il y en avait plusieurs milliers. Plusieurs milliers de toute une série de pays qu'on a pu faire parler ici et là et tout. Mais ça aussi, on fait comme si ce n'était pas vrai, puisque ces gens-là, on dit que ça s'est passé normalement. Donc, évidemment, leur témoignage ne passera pas sur nos antennes. On les a vus ailleurs, on a pu les voir ailleurs. On a vu sur Al-Mayadine, on en a vu ici et là des témoignages, sur des chaînes russes aussi, sur ça. Mais évidemment, ça ne passera pas chez nous. Mais il y en avait une grande quantité, je crois qu'il y en avait 3000 en tout. Alors il y avait de quoi les répartir sur tout le pays, mais voilà, et aucune observation. Il y avait y compris l'OSCE, etc. Oui, aucune observation critique. Oui.
L'ONU? Non.
Non, l'OSCE.
Mais il n'y a pas eu l'ONU, des observateurs pas, de l'ONU?
Je ne crois pas, en tant que tel. Donc là aussi, de toute façon, on ne voulait pas que ce soit considéré comme sérieux, donc on considère que ce n'est pas sérieux, n'en parle. Alors j'en étais à la participation. Je reste un tout petit peu sur la question des bulletins de vote à l'étranger, parce qu'il y a des Russes qui habitent à l'étranger. Il y a eu, je crois, quelque chose comme 350 000 votants à l'étranger dans des bureaux tenus, alors en général dans les ambassades ou dans les consulats. On ne leur a pas toujours facilité la tâche. Il n'y avait souvent qu'un bureau de vote par pays. Et il y en a quand même un certain nombre qui se sont exprimés. Alors avec un clivage assez intéressant entre les Russes installés depuis longtemps dans un pays, on en a ici, qui ont plutôt voté Poutine, et ceux qui sont arrivés plus récemment, qui font partie des générations qui n'aiment pas Poutine, etc., et qui auraient bien aimé voter Navalny si Navalny avait été candidat. Bon, mais... Alors, donc, ils ont voté, il n'y a pas eu de souci, et aucun pays n'a empêché que ce vote n'ait lieu, puisque
oui,
c'était
moi
pas...
Moi, je regardais le vote à Cuba.
Voilà.
Aussi en Amérique latine. En Amérique latine, surtout le Venezuela. Il y a eu aussi quelques pays, là, vous savez, qu'ils ont voté. Ils avaient leur bureau de vote à l'ambassade de la Russie. Voilà, ambassadeur ici, aussi bien Cuba, Venezuela, tout ça, tous ces pays. Voilà.
Alors ça fait...
Aucun problème.
Ça fait 300 000 voix à peu près, un peu plus, vers 350, sur un total de suffrages exprimés de 76 millions. Donc c'est une petite goutte d'eau, mais ce droit-là a été exercé normalement et n'a pas donné un résultat tout à fait hostile à Poutine. C'est même pas le cas. Ça dépendait beaucoup des pays et du caractère récent de l'émigration russe. C'est ça qui paraît avoir fait la différence ici ou là. Bon, voilà pour la participation. Alors, j'insiste, 3 jours de vote. Vote facile avec la possibilité du vote électronique, donc par correspondance. Des résultats proclamés assez vite, puisque ça a été très très vite connu, il y a eu des estimations très vite, et puis le résultat a été officialisé très très vite. Et donc, pas de problème de déroulement dans cette élection. Et un résultat qui est tout à fait remarquable pour le président, qui est de presque 85% des voix en sa faveur. Bon, ça, alors on va vous dire aussi, c'est comme Staline, vous avez entendu tout ça.
Ils ont même essayé des empêchements, hein, il ne faut pas...
Oui.
Ouais, surtout, ils ont envoyé pas mal de drones. Je sais pas si
alors en plus, voilà, ce qui s'est passé pendant les 3 jours du vote, il y a eu effectivement toute une série d'attaques de l'étranger sur le territoire russe. Dans les zones approchant la frontière de l'Ukraine et de la Russie. Mais il y a effectivement essayé de semer une panique dans le corps électoral pour dire, regardez, on est là, et même si vous votez pour lui, ça se finira mal. Bon. Ça n'a pas fait d'effet, et à la limite, ça a peut-être même fait l'effet inverse. Hein. Mais effectivement, ils ont tenté ça, c'est-à-dire mettre le désordre dans les files d'attente des bureaux de vote, tuer des électeurs qui attendent, etc. Dire vous allez voter, bien fait, vous allez mourir, etc. Ça, c'était le jeu qui était en cours. Bon, il n'a pas marché, mais il a été tenté. Donc, la liberté de vote, ça ne plaît que quand vous votez pour les Occidentaux. Autrement, on tire sur les files d'électeurs. Bon. Alors je simplifie, mais c'était ça. Là où c'était possible, parce que ce n'était pas possible en profondeur de tout le territoire russe.
Bien sûr.
Donc le résultat, donc 4 candidats, je le rappelle. Oui. Poutine, donc à 84,77% des voix, je crois.
87.
87,77%.
Oui, moi, j'ai vu
87. Ouais, non, voilà. Oui, peut-être, tu as peut-être raison. Et donc les 3 autres, puisqu'il y avait 3 autres candidats, se baladent entre 3 et 4%.
C'est ça.
Bon, alors vous allez dire, bah, de toute façon, il n'y avait pas d'enjeu, ils étaient sûrs qu'il allait gagner, etc. Alors ce qu'il a fait, j'insiste là-dessus...
Attention, je voulais dire aussi que les 4 candidats, ils étaient en accord avec la politique étrangère de la Russie.
Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, ce qu'il a fait, et là, ça mérite d'être connu, c'est-à-dire que ça s'est passé donc hier, je crois, on est là, oui, hier, il a reçu les trois autres candidats lui-même dans un bureau. Écoutez le discours, le langage qu'il leur a tenu. Il leur a dit, messieurs, vous avez participé à cette élection, je vous en remercie. Je dois vous dire, et c'est moi qui souligne, je dois vous dire que ce résultat, votre résultat, qui est faible, 4%, 3%, etc., ne correspond pas à la réalité de votre audience. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'agissait d'une élection exceptionnelle du chef de l'État et du chef des armées dans une situation où le pays est menacé. Et donc, c'est normal que les suffrages se soient reportés plus sur moi que sur vous. Mais il leur a dit, je sais que je ne pense pas que votre audience est faiblie. Ouais, simplement, elle a été gommée par les circonstances et par ma candidature. Premier point, il dit déjà ça. Et il leur dit gentiment, en face, sur une petite table et tout, il ne leur dit pas agressivement. Et puis il leur dit, alors écoutez, là c'est assez extraordinaire. Il leur dit, maintenant, vous avez mené campagne, je le sais que vous avez mené campagne, comme moi je l'ai fait. Il est allé partout où il pouvait parler, s'exprimer. Et aussi, dites-moi ce que vous ont dit les électeurs. Alors pourquoi dire ça? Il veut les faire avouer. Non, il leur dit, parce que nous sommes tous les quatre qui sommes là réunis autour de cette table, on est là, on fait de la politique pour le bien du peuple russe. Donc tout ce que vous avez pu entendre dans la bouche de vos électeurs, dans vos réunions électorales, ça fait partie des questionnements du peuple russe. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qui peut être amélioré et tout? Donc il faut que nous partagions ce que vous avez entendu pour que nous fassions avancer le pays tous ensemble. Non, imaginez.
Ouais, c'est vrai.
Non, imaginez ça. Alors, il ne faut pas le faire.
Alors, non, je ne l'imagine pas en France.
Non, voilà. Et ça, on ne le dira pas, parce qu'effectivement, ça donne une autre lecture des événements et ça donne un autre éclairage sur le personnage. Un personnage qui est d'abord capable d'imaginer cette procédure, de le dire. Les autres acceptent. Ils ne sont pas venus, le nez de travers, fâchés, etc., entrés dans les pieds. Ils ont, alors, le document est en anglais sur le site du Kremlin. Il fait 16 pages. 16 pages. Et par exemple, moi, j'ai lu un moment où il y a quelqu'un, un des candidats, peu importe lequel, qui dit « Ah ben j'ai des étudiants qui sont venus se plaindre parce que les droits d'inscription dans les universités ont un peu augmenté et c'est un peu cher. » Et il cite le chiffre. C'est passé de 16 à 30 roubles. Et Poutine leur dit « Oui, mais avant qu'on intervienne pour régler cette situation, il y avait des frais d'inscription à 3000 roubles. Donc on va dans le bon sens, il faut que ça baisse, il faut aller dans le sens de la gratuité des études supérieures. Mais vous avez raison de souligner ce problème, puisque de vos étudiants, de vos électeurs, vous l'ont posé. » Et tout est de cette veine. Donc on va parler au ras des pâquerettes, j'allais dire, hein, de la chaussée abîmée, des frais d'inscription dans les universités, etc. Tout ça, c'est dans les 16 pages du document en langue anglaise sur le site du Kremlin. Bien entendu, moi qui ne pratique pas la vérité journalistiquement établie, j'ai pris le temps de regarder tout ça. Et je découvre un autre monde que celui qu'on nous présente, c'est-à-dire un monde où effectivement, quatre personnes qui sont présentées à une élection présidentielle qui est importante disent, de toute façon, on s'est présenté parce qu'on a tous, avec des nuances, des différences, une vision de l'avenir de notre pays, auquel on veut du bien.
Oui. Exactement.
Et on n'est pas là pour s'enrichir, on n'est pas là parce qu'on représente tel autre, on n'est pas là parce qu'on est à la limite vendu à tel ou tel groupe d'intérêt, on est là parce que l'avenir du peuple russe et de la Russie nous intéresse et qu'on veut que ça aille dans le sens de l'amélioration. À quoi Poutine peut dire, ben on est tous d'accord là-dessus. Hein, et donc, on continuera à travailler ensemble. Vous serez dans l'opposition à la Douma, je pense en particulier aux communistes, qui dans des élections assez régulières dans des républiques fédérées ou dans des grandes villes peuvent atteindre des scores qui sont entre 15 et 25%. Donc c'est pas un parti sans implantation, sans opinion. Mais ils sont là aussi pour dire, mais nous on veut que la Russie progresse et ne se laisse pas envahir. Bon. C'est la donnée très très importante qu'il faut souligner. Et ensuite, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on va venir à la suite de nos enregistrements sonores. Il y a donc une conférence de presse qui a lieu donc hier matin, aux petites heures de la matinée, dans laquelle on voit, alors j'ai vu le russe sous-titré en anglais. Et donc, il y a un correspondant qui est chassé Reuters qui dit, alors, par rapport aux propos du président Macron, est-ce que vous pensez qu'une attaque des Européens sur la Russie est possible ? Alors, Poutine lève un peu les sourcils et il dit, alors, il n'y a pas un geste désespéré. Tout est possible. Je m'attends à tout et à n'importe quoi. En gros, ce serait ça qu'il dit. Alors, il n'en dit pas plus. Tout est possible. Hein, mais je pense, alors c'est là qu'on voit qu'il est très, très à jour sur ses dossiers. Et j'en viens à Macron à travers ce qu'il dit. Il dit effectivement, je note, parce que c'est donc hier matin, que la position d'Emmanuel Macron a évolué. Je me tiens bien au courant de ce qui se passe. Et je vais m'arrêter là-dessus pour développer. On a, dans les premiers jours de l'euphorie guerrière du président français, il a été question d'envoyer 15 000 hommes sous uniforme, la troupe, l'armée française, sur le sol de l'Ukraine. Bon. Alors ça s'est assez vite dégonflé, puisque dans la réunion qui a eu lieu à Berlin ou à Bruxelles, je ne sais pas, le chancelier allemand lui a dit « Non, mais on ne joue pas à ça, nous, hein, tu iras tout seul si tu veux, hein, sous-entendu, nous on ne veut pas ». Et pratiquement, les Anglais ont dit la même chose, donc personne ne veut y aller, Macron était tout seul. Bon. À la suite de quoi, cette première baudruche s'est dégonflée. Alors la deuxième baudruche, alors je vais m'arrêter sur cette deuxième baudruche telle qu'on peut la saisir, mais là ça devient un peu plus flou, un peu plus, parce que c'est pas très joli. Déjà une baudruche dégonflée, vous savez ce que c'est, ça a l'air tout fripé, on dirait un vieillard souvent. Bon, et donc la deuxième baudruche, on est passé de 15 000 à 1 500. On a quand même perdu 90% de l'effectif. Bon. Et alors où est-ce qu'on les prend les 1 500 ? Alors là, on ne sait pas trop, parce qu'il a été question, d'abord il y a des noms qui ont été cités, des éléments de l'armée française, en particulier de la Légion étrangère, qu'on a l'habitude d'envoyer sur ces coups tordus. Je pense à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère qui est sur le camp du Larzac. Je pense à certains régiments d'infanterie de marine qui sont spécialistes des coups tordus, ceux qu'on envoie pour Barkhane. Bon. Ouais, c'est ça. Apparemment, aucun nom d'unité n'a filtré. Aucun nom d'unité n'a aujourd'hui filtré. Ça veut dire quoi ? Alors, puisqu'il n'y a pas une nom d'unité, ça veut dire qu'il n'y a pas un colonel qui a dit « Voilà, je vous mets mes 900 hommes à disposition pour aller là-bas sur les plaines d'Ukraine. » Bon, ça veut dire qu'il y a une espèce d'appel à volontariat. Donc, il y a des soldats qui ont dit « Ah ben moi, s'il faut y aller, j'y vais. » Est-ce que pour susciter ce volontariat, il y a des primes, il y aura un avancement, est-ce qu'ils prendront un galon de plus, etc. On peut l'imaginer. Hein. Ce qui a permis à Poutine de dire, mais finalement, ça ou des mercenaires, c'est pareil. Et il a touché juste. Alors, au sujet des mercenaires, il était paru sur le site aussi de Russia Today un chiffre des mercenaires des différents pays qui ont été recensés par l'armée russe. Alors, ils n'ont pas été recensés parce qu'ils vont les compter à l'arrivée. Ils comptent les cadavres. Ils comptent les corps. Et donc, il y a des papiers sur les gens. Et il y a maintenant une statistique qui circule, qui est sur le site de Russia Today, où on voit le nombre de mercenaires étrangers dont les corps ont été ramassés par l'armée russe. Alors, ça s'étage entre 1700, je crois, c'est les Polonais, jusqu'à 200 ou 300. Les Français, il y en a 174 qui sont morts sur à peu près 400 qui ont été estimés. Voilà. Il y a des Colombiens, il y a des Canadiens, il y a des Géorgiens, il y a des Britanniques, il y a un peu de tout. Hein. Il y a un marché du mercenaire. Je ne sais pas trop comment c'est fait, je ne fréquente pas ces milieux-là. Hein. Mais ça existe, donc les chiffres sont connus. Et donc Poutine, par rapport à ça, quand le journaliste de Reuters lui dit « qu'est-ce qui va se passer ?», il va dire « ça va ressembler aux mercenaires tels que... Hein, c'est ces mercenaires de l'armée française, et ils vont faire ce que font les mercenaires, c'est-à-dire donner des conseils, aider à manipuler un armement qui connaissent mal, etc. » Il dit, ça ne changera rien. Ça changera. Donc on est donc réduit à ces 1500. Et donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas, je insiste là-dessus, il n'y a pas de chef d'unité française qui ont dit au président et au ministre des Armées, M. Lecornu, moi j'envoie tous mes hommes. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Alors c'est là qu'il faut se poser des questions pour la vérité journalistiquement établie. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Ben parce qu'ils ont peut-être compris que ça n'aurait pas beaucoup de succès. Hein. Et puis, ils ont peut-être dû dire, parce que ces gens-là, officiers supérieurs ou officiers généraux, se tiennent évidemment au courant de ce qui se passe sur le sol ukrainien. Et ils ont pu dire peut-être aux petits jeunes, ils disaient « Ah, moi, je vais y aller, je vais y aller. » Tu sais, c'est une chance sur deux de revenir. réfléchis. Tu as une amie, tu es marié, tu vas avoir des gosses, tu es sûr de ce que tu fais. Bon, si tu veux y aller, bon, tu y vas. T'as. Mais moi, je te donne quand même un éclairage sur la situation militaire de la guerre en Ukraine. C'est au niveau des mercenaires, on en est à 1/2 qui meurt. Bon. Et dans l'armée ukrainienne, aujourd'hui, dans les derniers mouvements qu'il y a eu sur le front, on est à entre 800 et 1000 morts côté ukrainien par jour. Par jour. Donc le mercenaire a intérêt à se tenir très très loin pour entretenir les missiles, hein, mais à ne pas venir vers la ligne de front. Bon. Donc ce qui explique aussi qu'une fois éclairés dans leur choix, les jeunes gens soient dit oh, finalement, est-ce que c'est bien la peine d'y aller, même si la carotte dont on ne nous a pas parlé, même si la carotte était appétissante. Ça, je ne sais pas, on le saura peut-être. Après, il y en a peut-être qui vont dire, ah, bon, on m'a proposé si ça, ou de devenir sergent, ou de devenir, qui sait, sous-lieutenant. Roselyne.
Je n'ai pas compris. C'est une troupe de 1500 hommes, ouais. Mais qui n'a pas de chef ? Parce que...
C'est pas dit. C'est pas dit. Alors, peut-être sur le nombre, on aura trouvé un lieutenant qui va faire le chef, mais en fait, c'est pas des gens qui auront travaillé ensemble. Ils viendront d'unités disparates. De corps, ils pourront venir de l'artillerie, de l'infanterie, de l'aviation, de la marine nationale. On dira, ben, c'est l'apport de la France à la guerre.
Parce qu'on dit que personne ne veut soutenir la France, parce que ni l'OTAN, ni personne, parce que c'est une déclaration de guerre à la Russie.
Voilà. Oui. Et en fait, oui, mais en fait, Poutine minimise, puis ce qu'il dit au fond, c'est jamais que des mercenaires, mais cette fois, ils sont sous l'uniforme de l'armée française, mais ils ne feront pas plus, ils ne feront pas autre chose que ça, parce que de toute façon, ils n'en auront pas les capacités, pas la formation. Et tu as raison de citer, c'est évidemment pas une unité combattante qu'on envoie. C'est un rassemblement de volontaires qui feront ce qu'ils pourront dans des délais. Alors, il faudra peut-être un peu les former, les habituer au terrain, comment travaille l'adversaire, etc., militairement. Mais de toute façon, on n'envoie pas du tout une force de combat. Ça paraît évident. Ce qui veut dire que la baudruche est totalement vide. Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
La baudruche est vidée. Et la preuve que dans les hauts niveaux de la hiérarchie militaire française, on est très content que ça se finisse comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'officiers supérieurs et d'officiers généraux qui ont dû mettre leur grain de sel en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans ? Hein, qu'est-ce que vous voulez mourir tout de suite, là, comme ça, dans un combat douteux ?» Bon. Et donc, ça se commence à se concrétiser, puisqu'il est paru, donc je crois hier, dans un périodique en ligne qui s'appelle « Le courrier des stratèges », un appel de 12 officiers supérieurs, ce qu'on appelle le deuxième service, hein, qui sont donc à la retraite, hein, qui ont dit « cette politique est folle, nous n'y participons pas ». Ce qui veut dire que si ces officiers généraux à la retraite, ou capitaine de vaisseau, il y a un capitaine de vaisseau, il y a quelques colonels et tout, disent « c'est une folie, cette opération Macron », ça veut dire que ceux qui sont en activité pensent la même chose, dans leur grande majorité.
Ils doivent se consulter. Voilà.
Ben, ils se parlent. C'est normal qu'ils se parlent, parce que c'est des gens qui ont ce niveau de responsabilité. Si, quand ils ont un président, le chef des armées, qui s'embarque, qui fabrique des baudruches et qui met en jeu la sécurité du pays, c'est normal qu'ils se parlent.
Et surtout, ce n'est pas un spécialiste.
Ah ben, il n'a pas fait de service militaire. Bon, ça, c'est arrivé à d'autres. Il n'y connaît pas grand-chose. Et donc, il s'est retrouvé chef des armées, alors qu'il n'a aucune pratique et aucune formation à ce niveau-là. Bon. Et donc, ce que ça confirme, et on le sentait venir, mais là, c'est confirmé avec lui, c'est-à-dire les espèces d'excès de langage d'Emmanuel Macron. Certains diraient même l'espèce de délire, enfin, de parole incontrôlée qu'il profère. Et donc que Poutine a réduit à sa juste dimension, sont des propos qui ne sont pas partagés par l'armée et que l'armée n'est pas prête à s'engager dans ce genre d'aventure.
De toute façon, je pense quand il a été élu Macron au premier abord, il y a eu un général qui s'est opposé.
Déjà.
Qu'il
a exclu du poste de chef d'état-major.
Oui. C'est ça.
Et donc, ça n'a jamais été bien. Et alors, ce qui est trompeur, c'est qu'effectivement, et on a raison de s'arrêter sur ce point-là, c'est que malgré tout, Macron fait des efforts pour augmenter le budget des armées. Et je m'arrête là-dessus parce que ça fait aussi partie du sujet. Les efforts. Alors, il pensait en fait se mettre l'armée dans la poche. En disant, regardez, votre budget augmente, et j'en veux pour preuve que dans les dernières baisses de budget, de baisses de crédit décidées par le ministère des Finances, M. Bruno Le Maire, il a dit, mais l'armée n'est pas touchée. Ceci étant, le problème que ça pose, ce n'est pas celui de l'argent, bien, c'est le problème de la taille et de la prétention des politiques militaires qui sont dans le cerveau enfumé de M. Macron. C'est-à-dire, M. Macron se voit comme l'espèce de maître de la planète. Souvenez-vous, Jupiter n'est pas si loin, hein, de maître de la planète, ayant une flotte dans le Pacifique, une flotte dans l'Atlantique, une flotte dans l'océan Indien. Il se prend pour le maître du monde, alors que l'armée française n'est pas du tout à cette taille-là. Et je me souviens des premiers chiffres qui ont été avancés dans les premiers jours, le jour de la première baudruche. Les militaires qui ont accepté de donner un point de vue en disant, ils ont dit, si on peut mettre 15 000 hommes sur le terrain, c'est bien le maximum. Alors vous voyez, donc une armée gonflée à coups de budget parce qu'elle a des prétentions à être l'une des meilleures armées du monde et qui n'en a pas objectivement les moyens. Donc à la fois, on a cette espèce de contradiction qui n'est qu'apparente, on a un budget militaire qui augmente et une armée insatisfaite parce que de toute façon, les ambitions sont tout à fait disproportionnées par rapport aux moyens. Et donc les ambitions et le budget militaire est petit par rapport à celui évidemment des États-Unis et d'autres, et même maintenant de la Russie et de la Chine. Et donc on ne peut pas faire beaucoup avec pas grand-chose. Voilà ce qu'il importait de dire déjà sur ces questions militaires. Bon. Et ensuite, donc, Poutine, après avoir répondu à ce journaliste, en disant « tout est possible, mais enfin, je vous donne effectivement les limites de l'intervention possible de Macron. Ce seront des gens qui feront de l'aide, de l'assistance, de la formation. Donc ce seront des mercenaires sous l'uniforme de l'armée française, mais rien d'autre que ça. Il dit donc pas de changement de notre point de vue. C'est pas ça qui changera la phase de la guerre. » Et puis, autre point qu'il aborde, alors il l'aborde d'une façon un peu plus engagée et plus forte dans la réception qu'il fait à des jeunes. C'est la fin de sa conférence de presse, il reçoit toute une série de jeunes, garçons et filles, où là, il se met à dire en russe quelques mots qu'on va écouter. Alors, je vous passe le russe parce que c'est quelques secondes, mais je vous en donnerai la traduction française. Mais surtout, je demande à Roselyne de nous le passer parce que vous allez entendre le ton qu'il prend. C'est-à-dire, autant en répondant au journaliste de Reuters, il a dit nous cassons pas la tête, c'est pas très sérieux, c'est des mercenaires et tout. Là, on sent que le monsieur est impliqué et qui sait pourquoi il est là et qui sait ce qu'il est en train de faire. Voilà, on écoute, c'est très très bref, c'est une petite minute, je crois.
Лидированные, и мне думается, что для всех это стало понятно. Кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. И, конечно, сегодня... В тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам, ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования.
Voilà, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il y a plusieurs temps, alors il s'adresse à ces jeunes qui sont là, donc il s'adresse à l'avenir de la Russie. C'est ça la symbolique de la scène. Il y a plusieurs tâches à accomplir. Mais quand nous sommes consolidés, donc ils disent qu'ils pensent être l'état de la Russie et du travail qu'il a fait avec ses gouvernements depuis qu'il est au pouvoir. Et je pense que maintenant tout le monde le comprend. Quelle que soit la manière dont on cherche à nous faire peur, à nous écraser, notre volonté, notre conscience, personne dans l'histoire n'y a jamais réussi. Ils n'y réussissent pas maintenant et ils n'y réussiront jamais dans l'avenir. Jamais. Voilà la vigueur du ton. Et bien sûr, aujourd'hui, vu les conditions actuelles, je dois dire un mot de reconnaissance envers ceux qui se battent sur le front et garantissent à notre pays les conditions de son existence et de son développement. Bon. On ne peut pas être plus clair. Hein. On ne peut pas être plus clair. Bon, apparemment, les gens, bon, ils ont été sélectionnés, mais on leur content d'écouter ouais, ça.
J'ai vu hein, sur hein. Le Mayadine.
Voilà.
Ça a été traduit.
Voilà, le message est fort. Il ne mâche pas les mots, il va à l'essentiel, il l'enrobe pas, c'est très très clair. On est là, on passe un cap, on est consolidé, on l'a démontré, ceux qui devaient nous détruire en quelques semaines ne nous ont pas détruits. Et il rappelle notre histoire, et ça c'est l'histoire russe. Hein. Alors souviens-toi Napoléon Bonaparte, souviens-toi Adolf Hitler, on ne prend pas la Russie, personne ne sait faire. Et donc, il faut arrêter. Hein. Maintenant, il y a une Russie qui est capable de se défendre. Elle a eu des moments de faiblesse réels, mais c'est terminé. Et donc, n'essayez pas. Donc ça, c'est des raisonnements. Alors, c'est là où je, c'est de la peine à suivre les raisonnements de l'équipe Macron. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des services de renseignement, ils ont des ambassades, ils ont des contacts avec le gouvernement des États-Unis, le gouvernement britannique et tout. Ils savent ça. Ils savent ça et ils ne veulent pas le savoir. Et là, il y a effectivement une vraie difficulté intellectuelle, c'est-à-dire comment on peut à la fois savoir qu'il y a des choses qui ne se passeront pas et faire comme si on allait soi-même fabriquer l'histoire alors qu'elle va effectivement dans l'autre sens. Alors là, il y en a qui disent bon, maladie mentale, alors moi je ne prononce pas le mot, je ne sais pas, mais il y a une contradiction extrêmement forte, qui est une contradiction à limite explosive. Comment un être humain peut à la fois savoir qu'il ne faut pas faire ça et s'entêter à le faire quand même ? Il y a un aspect morbide dans cette position. Alors, c'est très, très inquiétant parce que ça s'est vérifié dans un truc qui est un truc de détail, mais sur lequel je vais m'arrêter. C'est la crise à Sciences Po. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça. Sciences Po, donc l'Institut d'études politiques de Paris, qui est le berceau de la classe dirigeante française, où sont passés Emmanuel Macron, Attal, une bonne partie des membres du gouvernement et quelques autres. Bon, c'est là où se fait la pensée politique de l'élite française, enfin de la classe dirigeante française aujourd'hui. C'est encore plus caricatural aujourd'hui avec les équipes Macron-Attal que ça n'a jamais été. Parce qu'il y avait quelquefois même des gens qui venaient un peu de l'extérieur. Enfin, je pense par exemple, même Elisabeth Borne, qui était polytechnicienne, ingénieure des ponts et chaussées, n'était pas passée par ce moule-là. Mais là, c'est fini, ils sont tous du même moule. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moule-là, d'où ils viennent tous, et il n'y a pas longtemps qu'ils en sont sortis, pour les derniers d'entre eux, il se passe qu'il y a l'occasion d'une initiative européenne de journée de soutien à la Palestine, des étudiants qui demandent un amphi, qui font une réunion sur la situation en Palestine, et ça déclenche une crise, parce qu'il y a une étudiante qui dit qu'elle est représentante de l'Union des étudiants juifs de France, qui dit qu'on lui a interdit l'entrée. Bon. Alors c'est peut-être vrai, mais on ne l'a pas battu, on ne l'a pas molesté, etc. On lui a dit, écoute, il y a une réunion pour la Palestine, tu restes dehors. Bon, ça fait scandale. Bon, ça fait scandale, ça fait un peu scandale. Mais ce qui se passe, c'est gravissime. Il y avait, vu ce que j'ai vu de l'amphithéâtre, peut-être une centaine d'étudiants de Sciences Po, sur des milliers. Bon. Ça fait scandale au point que le jour même de cet amphithéâtre sur la Palestine, le président de la République prend position sur le phénomène. Et cette semaine, le 13, je crois, le Premier ministre va à Sciences Po lui-même. C'est inadmissible. C'est-à-dire, le Premier ministre s'abaisse, se déconsidère en allant lui-même essayer de mettre de l'ordre dans une faculté parce qu'il y a un débat sur une question politique importante. C'est catastrophique, il se ridiculise. C'est-à-dire, il est une espèce de censeur des études, c'est le surveilleur général qui vient dans la cour, dans arrêter les petits, etc. Bon, ça en dit loin, ça en dit beaucoup sur la faiblesse de ce gouvernement. Et ça a une conséquence sur laquelle je m'arrête qui est assez intéressante, c'est que il s'est réuni à la suite de la visite de Gabriel Attal à Sciences Po, les doyens de toutes les facultés de Paris qui se sont réunis et puis qui ont dit « mais c'est pas comme ça que ça se passe, les libertés universitaires ça existe, la liberté d'opinion ça existe, les gens qui sont venus à la Réunion Palestine ils n'ont pas mis le feu à l'amphithéâtre, ils n'ont pas exigé la démission de Macron, ils ont parlé de la situation de la Palestine et ils ont témoigné de la solidarité pour les Palestiniens. » Où est le drame ? Et donc, ils disent, attention, ils disent au gouvernement, au président, au Premier ministre, vous êtes en train de piétiner les libertés universitaires. Alors, ajoutez à ça, je rassemble, les généraux qui se disent, ça va pas du tout, les doyens des facultés qui disent, mais ça va pas du tout, plus la population, les gilets jaunes, etc., qui disent, ça va pas du tout, les paysans qui disent, ça va pas du tout, ce gouvernement repose... peut-être sur pas grand-chose, ouais. Si ce n'est sur les journalistes qui établissent la vérité. Mais s'il ne reste plus que ça, il n'y en a plus pour très longtemps. Alors on verra, je ne prends pas de pari, mais je vois toute une série de signaux qui montrent que ce pouvoir a passé une espèce de cap, c'est-à-dire qu'il est dans l'irréel, il est dans des rêves. Et je me suis même demandé, c'est mon explication, parce que après la mise au point de Poutine sur les velléités françaises, en fait... Ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, parce qu'on se dit, est-ce que Macron est rationnel ? Alors je crois que Macron n'est pas rationnel, mais ce qu'il a fait, et là ça relève plus de la psychiatrie ou de la psychanalyse, c'est-à-dire en fait, il y a un événement important qui est cette élection présidentielle en Russie qui ne va pas du tout dans le sens de la politique occidentale, je vais être le seul à m'opposer. Je vais être le seul. Hein. Ni Scholz, ni Schunach, personne ne s'oppose. Et donc, en fait, on va parler de moi dans le monde entier. Et effectivement, à ce niveau-là, j'allais dire, bravo, on a parlé de toi. Simplement, bon, tu as couvert la France de ridicule. Merci, merci Emmanuel, c'est très gentil. Mais on a parlé de toi. Ouais. Au fond, il n'y a peut-être que ça qui le motive. Hein. Donc, en fait, on a une espèce d'entrepreneur de spectacle qui veut être cité tous les jours, parce qu'il a fait quelque chose hors du commun, même si c'est totalement insensé. Alors, c'est très, très dangereux, parce que ce monsieur, et les militaires là dont je parlais le signalent, ce monsieur a quand même la décision finale sur l'utilisation de l'arme atomique. Et là, bon, on peut inquiéter, parce que qu'il envoie quelques pauvres diables se faire tuer dans les plaines ukrainiennes, peut-être, mais la bombe atomique, c'est quand même autre chose, d'autant plus que s'il l'utilisait, je ne souscris pas du tout à cette hypothèse, mais si jamais, par un moment de d'égarement, parce que ça serait ça, ça ne pourrait pas relever d'autre chose que de l'égarement avec un excès d'hubris, si dans un moment d'égarement il le faisait, la riposte ferait que le jour même, l'Élysée passerait sous forme de décombre et lui avec, et des millions de personnes autour. Donc, évidemment, personne ne peut souhaiter une chose pareille, et personne de raisonnable ne peut échafauder ce genre d'hypothèse. Mais voilà, le raisonnement, où est le raisonnement? C'est la question qui se pose.
Oui, je t'écoute. Je pense qu'il ne faut pas oublier que Macron, s'il a été élu, c'était face à Marine Le Pen.
Voilà.
On n'a pas voté pour Macron. Hein.
Non, en plus, non, c'est ça. Non, c'est un mal élu. Non, c'est clairement c'est un mal élu. Encore plus mal élu la deuxième fois que la première. Oui,
la
tout
participation
à fait.
Était de 30 ou...
Oui, non, tout à fait. Et sur le foie du premier tour, il ne devrait même pas être président de la République. Il était à 20 et des poussières. Bon, donc, voilà. Dernière chose qu'il a dit, ça va vous faire rire. Oui, 4 minutes, ça va. Au cours de cette conférence de presse là, d'hier matin, il y a quelqu'un qui lui a parlé de Navalny. Hein, alors je reviens sur Navalny. Et il a dit, mais moi j'ai proposé de l'échanger. Parce qu'il a dit, ce monsieur était accusé. Alors d'une part, c'était un droit commun, puisqu'il y avait corruption, etc. Et puis, il était aussi accusé d'espionnage pour l'ennemi. Bon. Et il dit, ben, dans ces cas-là, les échanges d'espions, ça se fait. Moi j'ai proposé de l'échanger. Les autres n'ont pas voulu, parce qu'ils préféraient avoir un martyr dans les prisons russes, évidemment. Hein, ça, c'est tellement plus joli pour les journalistes qui font la vérité. Hein. Et dit, voilà, c'est tout, mais moi, quand je propose des échanges, et il dit, en plus, il a même précisé, j'aurais échangé Navalny contre plusieurs autres et tout. Mais voilà, on n'a pas voulu, l'affaire est close, ben, il est mort. Et je signale que le chef des services de renseignement ukrainien a dit qu'il était mort d'une embolie, ce qui paraissait pas faire de doute. Et pour que le renseignement ukrainien le dise, c'est qu'effectivement, il devait être au courant de la vérité. Et je vais vous dire deux mots pour finir d'un personnage qui est mort aussi presque en prison, qui s'appelle Gonzalo Lira. Alors, qui est Gonzalo Lira? Alors, Gonzalo Lira, c'est un monsieur qui est le fils d'un autre monsieur qui s'appelle Gonzalo Lira Senior, bon, fils de son père. Un réfugié, alors, chilien d'origine et réfugié aux États-Unis il y a quelque temps. Et M. Gonzalo Lira, il est journaliste, donc s'était installé en Ukraine avant le début de l'opération spéciale en février 2022. Et à partir de ce moment-là, il a mis au point, il s'est transformé en journaliste youtubeur, comme on dit. Donc il avait un site où il donnait ses commentaires en langue anglaise. Il parlait un excellent anglais puisqu'il était installé aux États-Unis avant. Il est journaliste, il a une citoyenneté double, chilienne et états-unienne. Et donc faisait des commentaires qui expliquaient que la position ukrainienne était intenable, qu'en fait les Russes avaient tout à fait raison de ce qu'ils étaient en train de faire. Bon. Alors, on l'a laissé parler un certain temps. Et puis à un moment donné, ça a chauffé les oreilles de l'équipe de Zelensky. Et on l'a impliqué donc d'atteinte à la sûreté de l'État, enfin propos anti-ukrainiens, etc. Et donc on l'a mis en prison, à Kharkov même. Et puis on l'a probablement mal soigné, et il a fini ses jours donc en janvier 2024 avec une double pneumonie et un phlegmon. Donc il avait peu de chance, il n'a probablement pas été très très bien soigné, et il est mort à l'hôpital de Kharkov au mois de janvier. Ce sur quoi je voulais parler de lui, puisqu'on en a peu parlé, je voulais signaler que les États-Unis n'ont pas bougé le quart du petit doigt pour que M. Lira, citoyen américain, ne soit pas maltraité en Ukraine. Hein. Ils l'ont laissé tranquillement mourir. Le père de Gonzalo Lira s'est adressé au département d'État, à la Maison Blanche, à mon fils, ceci. Il y a même, alors, il y a deux personnes qui ont parlé en sa faveur. Elon Musk a dit, mais ce type doit être libéré, c'est un citoyen américain, il a le droit de s'exprimer, on a la liberté d'expression. Et l'autre, c'était Tucker Carlson, le journaliste qui a été interviewé de Poutine. Donc, c'était des témoignages de poids, en disant, laissez-le sortir. Hein. Bon, la Maison Blanche n'a rien fait, le département d'État n'a rien fait, donc il était à peu près sûr que ça allait se terminer comme ça. Et donc, le monsieur, le Gonzalo Lira, est mort à l'hôpital à Kharkov, sans que... Alors, le communiqué, c'est très très intéressant à regarder, le département d'État a fait un communiqué comme si, je sais pas, Biden avait perdu un proche de sa famille, on envoie des condoléances. Le message le plus sec possible, les convenances réduites à leur minimum minimorum, surtout pour ne rien dire, on l'a laissé crever entre les mains des Ukrainiens. Bravo pour un citoyen. Mais un citoyen américain qui ne dit pas ce que veut que dise le gouvernement américain, bon, on s'intéresse plus ou moins à lui. Alors, le paradoxe, et je finis là-dessus parce que c'est assez cocasse, il semble bien, il est même établi que le père de M. Gonzalo Lira, donc Gonzalo Lira senior, était un ami de Pinochet. Alors, ça donne du personnage une image un peu trouble et bizarre, mais enfin, tout ce qu'il a dit, et il est facile, ben, les vidéos sont encore disponibles, tout ce qu'il disait dans un excellent anglais sur ce qui se passait en Ukraine, donc en 2022-2023, pendant l'opération spéciale, est tout à fait intelligible et tout à fait intelligent. Voilà. Mais ce monsieur-là ne disait pas ce qu'il fallait dire, il est mort. Voilà. Donc on n'en a pas parlé, c'est pour ça que je raccrochais cette histoire de Gonzalo Lira à l'histoire de Navalny dont on a parlé jusqu'à plus soif. Voilà, je crois que nous y sommes. Alors on va écouter pour finir une petite chanson que j'avais prévue, je ne sais pas si on pourra la passer en entier. Mais donc, alors je signale la source. Vous savez qu'il y a donc eu en 1938 un film réalisé par le grand réalisateur soviétique Eisenstein sur Alexandre Nevsky, qui est un noble russe du XIIIe ou XIVe siècle, qui s'oppose à l'invasion par les chevaliers teutoniques du territoire de la Russie. Et il y a dedans, alors, une musique de Prokofiev, la bande sonore est exceptionnelle et remarquable, qui s'appelle « Lève-toi à la Russie ». Et donc la vidéo dont on va passer quelques instants musicaux, c'est une série de groupes, hommes, femmes, militaires, danseurs, etc., qui chantent cette chanson-là. « Lève-toi, Russie ». C'est évidemment de circonstances.